Il y a un chiffre qui donne, disons, littéralement le vertige.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
5 000 milliards de dollars. Pour exister dans le monde technologique de demain, il va falloir trouver cette somme faramineuse.
C'est colossal. C'est le coût estimé pour construire les infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle d'ici 2030.
Exactement. Et face à ce mur financier, parce que c'est un vrai mur, on pourrait facilement penser que seuls quelques géants américains ou asiatiques ont le droit de survie, tu vois.
Oui, on a l'impression que le jeu est totalement verrouillé.
Pourtant, l'exploration que nous menons aujourd'hui repose sur une source qui prouve vraiment l'inverse.
Tout à fait.
Nous plongeons aujourd'hui dans les archives du magazine IA Mag numéro 4, qui était publié le 18 avril 2026.
Et c'est un numéro assez exceptionnel.
Complètement. C'est une édition spéciale, presque intégralement consacrée à un événement monumental, en fait, le GITX Africa 2026, organisé à Marrakech.
Un événement clé.
L'objectif de notre analyse approfondie, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décrypter un basculement géopolitique majeur. Parce que ce document, ce n'est pas le compte-rendu ennuyeux d'un salon professionnel de plus.
Non, pas du tout. C'est vraiment le carnet de bord d'un continent entier qui refuse catégoriquement d'être une simple colonie numérique.
Voilà.
Ce document, en fait, il agit véritablement comme un scanner de notre époque. Il révèle comment le Maroc s'impose à travers une stratégie d'État extrêmement agressive et très structurée. Il s'impose comme le hub digital incontournable, le, disons, le point de bascule physique et logique entre l'Europe et l'Afrique.
C'est ça, la technologie n'y est plus présentée comme un simple produit d'importation.
Absolument pas. C'est devenu le moteur central d'une souveraineté nouvelle.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que ce changement de dimension, il faut vraiment en mesurer l'ampleur.
Oui, il faut replacer le contexte.
Quand on parcourt les articles sur ce JITEX Africa, on réalise immédiatement qu'on a quitté le domaine de la foire technologique classique, quoi.
Ah oui, on n'y va clairement plus pour tester le dernier smartphone ou regarder les gadgets.
Non, c'est une démonstration de force institutionnelle. Par exemple, on a la ministre marocaine de la transition numérique, Amal El Fallah Segrouchni.
Oui, son intervention est très marquante.
Elle monte sur scène pour théoriser ce qu'elle appelle une troisième voie.
Et cette notion de troisième voie mérite vraiment qu'on s'y arrête une seconde.
Vas-y, je t'écoute.
Elle pose un postulat géopolitique fort, en fait. Le continent africain refuse l'alignement passif sur les modèles californiens ultra-capitalistes ou sur les modèles chinois très contrôlés par l'État. Mais en même temps, il rejette l'idée d'un isolement technologique, ce qui serait suicidaire aujourd'hui, on est d'accord.
Bien sûr.
Le but, c'est vraiment de bâtir un écosystème numérique fondé sur un équilibre d'intérêts mutuels et surtout une inclusion réelle des populations locales.
Et les chiffres rapportés par la source illustrent parfaitement cette ambition. On parle de, c'est fou, 50 000 participants,
50 000, ouais.
1450 exposants, venus de 130 pays. C'est littéralement une ville entière dédiée à la tech, en fait.
C'est massif, mais la statistique qui t'a le plus marqué, je crois, c'est au niveau budgétaire.
Ah mais totalement. J'ai dû arrêter ma lecture tellement c'est impressionnant. C'est le saut quantique des investissements publics marocains dans le secteur numérique.
Les chiffres sont éloquents.
Tenez-vous bien. Le budget est passé de 11 millions de dirhams en 2021 à plus de 1,7 milliard de dirhams en 2024.
C'est un changement d'univers complètement.
On a changé de galaxie, oui. Toute cette mécanique, elle s'articule autour de la stratégie Maroc Digital 2030.
Avec des objectifs chiffrés très clairs.
Voilà. Générer 270 000 emplois et atteindre 40 milliards de dirhams d'exportation de services digitaux d'ici la fin de la décennie.
Si l'on relie cela à une perspective plus globale, on observe un glissement sémantique majeur dans les sphères du pouvoir.
C'est-à-dire ?
Eh bien, pendant des décennies, la technologie dans la plupart des pays s'était reléguée au rang de, disons, supplément de modernité.
Oui, le truc un peu accessoire en coulisses.
C'est ça. C'était l'affaire du service informatique au sous-sol qui devait péniblement dématérialiser des formulaires pour l'administration.
Ah ouais, la fameuse paperasse numérique.
Voilà. Mais ce salon prouve que la technologie est désormais conçue comme une véritable arme de compétitivité internationale.
Ce n'est plus de l'intendance, c'est de la stratégie.
Absolument. D'ailleurs, la création d'un ministère spécifiquement dédié à cette transition au Maroc, dès 2021, traduit cette urgence. On ne délègue plus la technologie, on la gouverne.
Ça me fait penser à l'évolution de l'industrie musicale, cette histoire.
Ah ouais, comment ça ?
Pendant des années, dans le grand concert mondial de la tech, les pays africains payaient très cher leur place dans le public.
Pour regarder les stars internationaux sur scène.
Exactement. Ils achetaient des licences logicielles étrangères hors de prix, Mais avec ce qui se passe à Marrakech, le Maroc a décidé de ne plus rester dans les gradins.
Il veut passer en coulisses ?
Mieux que ça, il est en train de construire sa propre salle de spectacle. Il invite les producteurs, il gère la billetterie et surtout, et c'est là le point crucial, il dicte la programmation musicale.
C'est une excellente analogie. Et du coup, la question centrale devient alors de savoir quelle musique va être jouée dans cette nouvelle salle, en fait.
C'est la suite logique, oui.
Si le Maroc construit la scène physique et attire les investisseurs, le contenu, la fameuse musique, c'est inévitablement le logiciel.
Et en 2026, c'est impossible de parler logiciel sans se heurter au grand mur de l'intelligence artificielle.
Ah ça, c'est incontournable.
Ce qui nous amène à un débat fascinant, couvert par le magazine, le concept de souveraineté algorithmique.
Oui, un sujet très lourd.
Lors des panels, un ancien ingénieur de chez Google, Philippe Baudouin, a jeté un vrai pavé en la mare. Il a martelé qu'il y a une urgence vitale à concevoir une intelligence artificielle locale.
Une IA qui intègre les langues africaines, c'est ça ?
Voilà. Les langues, les références culturelles et même les philosophies locales.
L'enjeu est critique. Parce qu'il faut bien comprendre pour notre audience qu'une IA n'a rien d'une entité mathématique neutre et objective.
Pas du tout, non.
Son code et surtout ses données d'entraînement encapsulent une vision bien spécifique du monde.
Et c'est là qu'il faut un peu expliquer le mécanisme, je pense.
Vas-y, je te laisse faire.
Entraîner une intelligence artificielle, c'est un peu comme apprendre à un enfant à se repérer dans une grande ville.
Ok, je vois l'idée.
Si on entraîne cet enfant uniquement dans les rues de Los Angeles...
Avec son plan en quadrillage parfait.
Exactement. Les immenses avenues, tout est droit. Il connaîtra ses règles par cœur. Mais si on le parachute soudainement au cœur de la Médina de Fès...
Ah oui, avec ses ruelles organiques, ses impasses...
Et sa logique circulaire, oui. Il sera totalement incapable de naviguer. Les règles de base de la Californie ne s'appliquent plus du tout là-bas.
C'est une super métaphore. Et c'est exactement ce qui se passe quand on utilise un algorithme californien pour traiter des données, disons, de santé au Gabon.
Ou des dossiers administratifs au Maroc. On importe des biais invisibles.
Des erreurs de jugement, en fait. Et surtout, une dépendance intellectuelle massive.
Et ce phénomène d'inadéquation rend la fameuse souveraineté algorithmique totalement indispensable.
C'est pour cela qu'on voit émerger toutes ces initiatives incroyables pour compiler des bases de données massives en Darija, en Wolof ou en Swahili.
Pour que la machine comprenne vraiment les gens.
Oui, afin que les modèles d'IA saisissent les nuances culturelles locales plutôt que de juste traduire maladroitement une pensée anglo-saxonne de base.
Alors attends, je suis très enthousiaste sur cette idée de souveraineté algorithmique et d'IA locale, mais redescendons sur Terre une seconde.
Je sens venir le problème financier.
Bah oui. On a commencé cette exploration en parlant de 5000 milliards de dollars.
Le fameux chiffre du début, oui.
C'est la somme que rappelle la source pour répondre à la demande mondiale en data centers d'ici 2030. Bâtir une IA made in Morocco, culturellement adaptée, c'est intellectuellement brillant.
Mais le matériel coûte une fortune.
C'est ça. Face à ce mur financier colossal, face aux milliers de serveurs hors de prix, aux coûts énergétiques démentiels qu'il faut pour faire tourner ces modèles, comment ils font ?
C'est la vraie question.
Est-ce que cette souveraineté algorithmique, finalement, ce n'est pas qu'un joli slogan politique voué à s'écraser sur la réalité matérielle ? Concrètement, comment ils payent la facture ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'écosystème présent au JITEX ne fuit absolument pas cette réalité matérielle. Bien au contraire.
Ah bon ?
Il l'assume totalement. Le salon aborde frontalement la question du matériel, des serveurs, des câbles sous-marins. La réponse à ce mur financier, ce n'est surtout pas d'essayer de concurrencer les budgets pharaoniques de la Silicon Valley.
Ce qui serait complètement vain, de toute façon.
Ce serait peine perdue. Alors, la stratégie s'articule autour de deux axes très pragmatiques.
Lesquels ?
Premièrement, des partenariats stratégiques pour construire des data centers souverains, mais à des échelles maîtrisées. Et souvent, ils sont alimentés par l'énergie solaire qui est très abondante dans la région.
Ce qui fait chuter drastiquement les coûts de fonctionnement, du coup.
Exactement. Et deuxièmement, c'est le développement d'une IA qu'on appelle frugale.
Frugale, c'est-à-dire ?
Au lieu d'avoir des modèles mastodontes qui nécessitent des fermes de serveurs gigantesques, les chercheurs locaux développent des algorithmes ultra-optimisés.
Qui demandent moins de puissance de calcul, donc.
C'est ça. Ils sont capables de tourner sur des infrastructures beaucoup plus légères pour résoudre des tâches très spécifiques, sans gaspiller d'énergie.
Et donc, identifier cet obstacle matériel et le contourner par l'efficience énergétique, c'est ça le véritable premier acte de souveraineté.
Absolument. On quitte donc le discours magique pour mettre directement les mains dans le cambouis technologique.
Et pour survivre dans ce cambouis sans avoir des milliards illimités, l'innovation ne peut pas se perdre dans les gadgets. Elle doit s'attaquer à la survie quotidienne, en fait.
Ce qui explique les choix très restreints du salon.
Exactement. C'est ce qui explique le choix drastique des organisateurs du JTEX Africa. Ils n'ont pas ouvert les portes à toutes les tendances tech à la mode.
Fini les frigos connectés qui commandent des courses.
Voilà. Ils ont restreint le salon à 6 piliers de l'économie réelle. L'IA et la data, la cybersécurité, la fintech.
Le cloud couplé à l'IoT, l'agritech et la healthtech.
Et chaque pilier de cette liste répond à une urgence structurelle. Prenons la cybersécurité, par exemple.
C'est illustré dans la source par l'alliance entre Nucleon Security et Maroc Data Center.
Oui, parce que sur le plan purement mécanique, un État qui dématérialise son économie, ses hôpitaux, ses impôts, il centralise des données extrêmement critiques.
Des données sensibles. Et sans un cloud souverain, c'est-à-dire des serveurs physiquement situés sur le territoire national et protégés par un bouclier cyber local, l'État s'expose à la paralysie totale.
En cas d'attaque étrangère, tout s'effondre.
C'est ça, c'est la fondation absolue qui permet au reste d'exister.
Et il y a aussi la mention de l'IoT, l'Internet des objets. Pour préciser l'idée pour notre audience, on ne parle vraiment pas du fameux frigo connecté dont tu parlais.
Non, on est sur des choses beaucoup plus sérieuses.
On parle de capteurs industriels.
De sondes hygrométriques plantées dans les champs ou de boîtiers de suivi médical dans des dispensaires très isolés.
C'est la technologie qui permet de remonter des données cruciales depuis des zones très reculées vers les centres d'analyse urbains.
Et l'inclusion de l'agritech et de la healthtech démontre d'ailleurs que cette révolution numérique cherche vraiment un ancrage social.
Il ne s'agit pas d'optimiser le temps de trajet des livreurs de repas dans les grandes métropoles, quoi.
Pas du tout. Il s'agit de diagnostiquer des maladies à distance via l'intelligence artificielle.
Pour pallier le manque de médecins en zone rurale, par exemple. Ou d'optimiser chaque petite goutte d'eau pour l'irrigation agricole dans un contexte de stress hydrique chronique qu'on connaît bien.
L'approche est vraiment brillante.
Si on file une métaphore visuelle, la tech occidentale est très souvent pensée et conçue comme une voiture de sport de luxe.
Ah, j'aime beaucoup cette image.
C'est rapide, le design est à couper le souffle, ça génère des milliards en bourse.
Mais c'est extrêmement fragile.
Voilà. Dès que cette voiture quitte une route parfaitement asphaltée et rencontre un nid de poule, elle casse.
Alors que la technologie mise en avant au JTEX...
C'est un tracteur tout-terrain.
C'est exactement ça. Un engin robuste...
Qui n'a pas peur de la poussière, qui fonctionne avec une maintenance minimale et qui est conçu pour labourer profondément l'économie réelle.
Même sur des terrains super accidentés. Le tracteur, face à la voiture de sport, c'est une excellente grille de lecture pour comprendre cette divergence.
Mmh.
Mais pour que ces fameux tracteurs technologiques transforment le continent, il faut qu'ils soient pilotés et multipliés à grande échelle, tu vois ?
L'État ne peut pas tout faire tout seul, de toute façon.
Non. Les grandes orientations doivent s'incarner dans le secteur privé, à travers une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont prêts à passer à l'offensive.
Et c'est là que le magazine s'attarde sur un dispositif très concret. Le programme Morocco 300.
Oui, un programme très ambitieux.
Le mécanisme est d'une redoutable efficacité. Le gouvernement a reçu 933 candidatures de start-up marocaines.
Et ils en ont sélectionné très exactement 300.
Voilà. Pour ces élus, l'État prend en charge jusqu'à 95% des frais de participation au salon.
L'idée, ce n'est pas juste de faire du mécénat gentil, hein ?
Non, l'idée, c'est de créer un goulot d'étranglement inversé. Prendre les 300 meilleures solutions et les jeter dans l'arène.
Face à plus de 400 investisseurs mondiaux.
Qui gère, écoute bien ça, un portefeuille cumulé de 350 milliards de dollars d'actifs.
On force littéralement la rencontre entre le terrain local et le capital lourd international.
C'est brillant. La source mentionne notamment la start-up Yaké, qui sert un peu de locomotive avec sa levée de fonds fracassante de 15 millions de dollars.
Ce programme matérialise vraiment le passage de la simple théorie à l'industrialisation. L'écosystème produit désormais des entreprises capables de lever des capitaux significatifs.
Mais parmi tous les exemples cités dans les pages de ce numéro, le cas d'une entreprise spécifique illustre un phénomène de bascule historique.
Tu penses à Diplif, je suppose ?
Absolument. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Je te laisse raconter, c'est fascinant.
Diplif, c'est une start-up marocaine fondée très récemment, en 2023. Elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture.
L'agritech, donc.
Concrètement, comment ça marche? Ils utilisent des modèles d'IA qui analysent des images satellites, des données météo super complexes et des relevés de capteurs au sol.
Pour repérer les maladies des plantes avant même qu'elles ne soient visibles à l'œil nu, c'est ça?
Exactement. Ou pour prédire les besoins exacts en eau d'une parcelle agricole.
C'est de l'agriculture de très haute précision.
Et la grande nouvelle rapportée par IAMAG, c'est que cette jeune pousse marocaine vient de signer une alliance stratégique avec un géant européen, l'entreprise Agrevi.
Ah oui, pour optimiser les rendements agricoles en Europe?
Mais prenons le temps de mesurer ce que ça implique pour tous ceux qui nous écoutent et qui suivent l'industrie mondiale. C'est un signal d'alarme retentissant.
C'est un vrai changement de paradigme.
Pendant des décennies, on a cru que l'innovation viendrait toujours du Nord pour, soi-disant, sauver le Sud.
Le fameux transfert de technologie descendant.
Et ici, on a une technologie conçue en Afrique, forgée dans des conditions de stress hydrique extrême et de contraintes matérielles très fortes.
Et elle est jugée tellement supérieure à la concurrence.
Qu'elle est exportée pour résoudre les problèmes des agriculteurs européens. C'est l'inversion totale de la gravité technologique, je trouve ça dingue.
Et cette inversion n'est d'ailleurs pas une simple anecdote, tu sais. Les solutions qui sont développées sous fortes contraintes, qu'elles soient financières, énergétiques ou climatiques, ont tendance à être beaucoup plus résilientes.
Plus robustes que celles développées dans l'abondance, oui.
C'est ça. La trajectoire de Deep Leaf illustre à merveille la position que l'État marocain est en train de consolider, c'est-à-dire devenir une véritable API géopolitique.
Une API géopolitique, le terme est fort.
Très fort.
En informatique classique, pour rappeler, une API, c'est ce pont invisible, cette interface de programmation qui permet à deux logiciels totalement différents, qui ne parlent pas du tout le même langage,
de se comprendre
et d'échanger des données de manière fluide. Eh bien, le Maroc fait exactement la même chose, mais à l'échelle des continents.
C'est ça. Il traduit et il fluidifie les flux entre des mondes complexes. Et l'analyse détaillée des investissements dans le magazine le prouve.
Mmh.
La source révèle comment l'Europe se branche très agressivement sur cette API marocaine. Par exemple, l'Allemagne y déploie son programme Invest for Jobs.
Qui se concentre sur le transfert de compétences industrielles, c'est ça?
Et la création d'emplois, oui. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. De son côté, l'Union européenne franchit un cap massif avec un fonds d'investissement doté de 10 milliards d'euros.
10 milliards, hein?
Oui, ciblant spécifiquement la deep tech.
Et il faut d'ailleurs clarifier ce terme de deep tech pour éviter toute confusion, hein.
C'est important, oui.
On ne parle pas de financer la énième application de livraison de repas ou un nouveau réseau social, hein.
Non, ça c'est la tech grand public.
Des innovations fondées sur des découvertes scientifiques fondamentales et vraiment complexes. La biotechnologie, les nouveaux matériaux.
La cryptographie avancée.
Ou, justement, l'intelligence artificielle de pointe. Injecter 10 milliards d'euros dans ce secteur n'a rien d'un acte de charité de la part de l'Europe.
Ah non, l'Europe a un besoin vital de s'appuyer sur cette dynamique. Elle est coincée entre la suprématie tech américaine et la puissance industrielle asiatique.
Tout en étant confrontée à son propre vieillissement démographique en plus.
Exactement. Donc l'Europe voit dans ce hub marocain, et par extension dans le dynamisme de toute la jeunesse africaine, une alliance stratégique indispensable.
Pour ne pas être totalement marginalisé sur l'échiquier mondial de l'innovation au final.
Et cette imbrication des intérêts montre qu'on dépasse très, très largement le cadre du simple commerce.
L'article détaille également des accords qui relèvent de la diplomatie pure, comme la signature de mémorandums stratégiques avec le Gabon.
Oui, l'objectif étant d'exporter ce fameux savoir-faire marocain vers d'autres pays du continent africain.
Une initiative qui fait écho au succès fulgurant d'événements comme le Hackathon Ramadonia, qui a vraiment stimulé la création d'algorithmes purement locaux.
Cela soulève une question cruciale.
Laquelle ?
À quel moment précis un salon professionnel rempli de stands et de start-up se métamorphose-t-il en un sommet diplomatique officiel?
La frontière est devenue hyper fine.
La réponse s'est trouvée directement sur les scènes du JTEX. Les rédacteurs du magazine soulignent la présence simultanée de la ministre marocaine, de la ministre française déléguée au numérique
et du ministre de l'économie numérique du Gabon.
Voilà. Tous débattant ensemble de l'avenir de l'intelligence artificielle.
Ce type d'image démontre bien que la maîtrise de l'IA, la localisation physique des data centers et la formation des talents algorithmiques constituent désormais l'ossature des relations internationales.
Les accords technologiques ont tout simplement remplacé les anciens traités commerciaux classiques.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on a extraites des archives d'IAMAG aujourd'hui,
C'est l'heure du bilan.
L'édition 2026 du JTEX Africa n'est pas remarquable juste à cause de son grand nombre d'exposants. Elle est historique parce qu'elle acte la fin d'une ère.
Une ère de subordination.
L'ère où le continent africain était perçu par le reste du monde comme une vaste périphérie connectée. Tu sais, un simple marché de consommateurs à qui l'on vendait des forfaits mobiles et des réseaux sociaux étrangers.
Le Maroc a réussi un pari institutionnel et physique vraiment exceptionnel. Bâtir la plateforme qui filtre, organise et surtout redistribue la valeur technologique mondiale.
Et selon ses propres termes, c'est ça qui change tout.
La transformation d'un événement en un instrument de projection géopolitique est en effet spectaculaire.
Et pourquoi cette plongée dans cette source précise doit interpeller toute notre audience, qu'on soit étudiant, chef d'entreprise ou simple esprit curieux ?
Parce que les enjeux nous concernent tous.
Parce que ce document est une fenêtre sur la décennie à venir, tout simplement. Les solutions aux crises imminentes, qu'il s'agisse de sécuriser les données critiques des hôpitaux face aux cyberattaques, d'inventer une finance véritablement inclusive,
ou de nourrir la planète avec une agriculture malmenée par le climat, comme on l'a vu.
Eh bien, ces solutions ne sortiront très probablement pas des campus ultra-financés de la Silicon Valley.
Non.
Elles émergeront de ces écosystèmes contraints, de ces environnements où le droit à l'erreur n'existe pas.
Où l'on est obligé d'être ingénieux avec peu de moyens pour résoudre des problèmes de survie immédiate.
Les futurs standards mondiaux, ils sont en train d'être codés dans les allées de Marrakech.
Et cette réflexion nous amène à un dernier paradoxe qui mérite d'être médité par tous ceux qui nous écoutent.
Ah, je t'écoute.
Nous avons évoqué tout à l'heure la barrière des 5000 milliards de dollars pour les data centers mondiaux.
Le fameux mur énergétique et financier infranchissable, oui.
Et si cette contrainte devenait l'avantage compétitif absolu du continent africain ?
Comme ça, en inversant le problème ?
Exactement. Faute d'accès à des fermes de calcul illimitées, les ingénieurs locaux sont forcés de créer des modèles d'IA frugales.
Des modèles capables de performances exceptionnelles, mais avec une consommation d'électricité minimale.
Au moment même où l'urgence climatique rattrape violemment l'industrie tech occidentale, dont les modèles hyper énergivores deviennent intenables.
Cette contrainte fondamentale ne va-t-elle pas faire de l'intelligence artificielle africaine la norme environnementale mondiale par défaut d'ici quelques années ?
C'est la grande question. À très bientôt pour une nouvelle analyse.